la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 23 octobre et Sarkozy est toujours en prison. Ça n'a aucun lien avec ce que je vais dire par la suite, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler. Non, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur l'annonce de Marine Tondelier qui s'est déclarée candidate à la présidentielle. Et on s'en fiche un peu, non ? Puisqu'un nom, c'est bien, mais un programme, c'est mieux. Et en termes de programme, c'est pas Tondelier qui me rassure le plus. Puisque le dernier candidat des Verts, Yannick Jadot, dont elle était d'ailleurs la porte-parole, avait un programme, pour ne pas dire droitier, disons pro-marché. Et quand on lui rappelait que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, il répondait que le jardinage, c'était bien. Vous l'aurez compris, cette annonce ne me réjouit pas, parce que Tondelier ne rompt pas, pour moi, avec le marché. Oui, pour parler comme Mitterrand, elle n'est pas fondamentalement en rupture avec l'ordre établi par la société capitaliste. Et c'est un problème. La lutte écologiste n'est pas un substitut de la lutte des classes, l'écologie en est une nouvelle dimension. Pourtant, des programmes qui cumulent les deux existent, celui du NFP ou de la NUPES, eux-mêmes basés sur le programme de l'Union Populaire, coordonné par Clémence Guettet, par exemple. Mais voilà, Tondelier n'a pas de programme, elle n'est pour l'instant candidate que sur son nom, un édito sur pas grand-chose, mais ça prend du temps. J'aurais pu vous parler d'Israël qui a déjà violé le cessez-le-feu, des 7 millions de personnes qui ont manifesté aux US contre Trump, ou bien du dépassement d'une nouvelle limite planétaire. Mais non, je vous ai parlé d'une présidentielle qui n'arrive que dans un an et demi, et de l'absence de programme de Marine Tondelier. Bon, j'ai quand même mentionné Clémence Guettet. Ce soir, au programme, on reçoit Élodie Martini-Cousty, la vice-présidente du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui vient nous parler du traité sur la haute mer qui entrera bientôt en vigueur, interviewé par Constance. Dans le Zoom, Philippe interviewera James Baker, un artiste, musicien, cinéaste, autodidacte de banlieue parisienne qui vient nous présenter son EP Ami Rose. Le flash actu sera assuré par Abel. Aux chroniques, vous aurez droit à l'humour de Gauthier. Et Philippe reviendra pour vous parler d'un fait d'actualité qui l'aura marqué. Et tout de suite, la grande interview dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en DAB+.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Au début de l'année prochaine, un nouveau traité sur la vie marine entrera en vigueur nommé le traité sur la haute mer. Quels enjeux autour de ce traité? Quel est l'impact de l'actualité internationale sur ce traité? Quels espoirs dans la préservation de nos océans soulèvent-ils? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons Élodie Martini-Cousty, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Constance, c'est toi qui l'interview.
Merci beaucoup. Est-ce que notre invitée nous entend puisqu'elle est à distance ce soir ?
Oui, moi je vous entends très bien. Et vous, vous m'entendez ?
Ouais, on vous reçoit super.
Très bien, très
merci
bien.
Merci beaucoup.
Parfait.
Alors, avant de commencer à parler du traité sur la haute mer, est-ce que pour une petite parenthèse de culture générale, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CESE dont vous êtes la vice-présidente ?
Alors, le Conseil économique, social et environnemental est une institution qui a été mise en place après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est la troisième Assemblée de la République et qui, aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, où vous avez la démocratie représentative, donc représentant des élus, eh bien, le CESE, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire que le Conseil économique, social et environnemental regroupe toutes les organisations, enfin pas toutes malheureusement, mais beaucoup d'organisations de la société civile organisées, c'est-à-dire les entreprises, tout type d'entreprises, hein, ça va du MEDEF aux petits artisans et aux professions libérales, les syndicats, et puis depuis 2008 et la modification de la Constitution, il y a un nouveau pilier qui est le pilier environnemental, ainsi que le pilier de la vie associative qui regroupe là à la fois les associations environnementales reconnues qui participe déjà au débat public et à la vie dans les territoires et à la protection de l'environnement. Et puis dans les associations, les autres associations sont les associations de sport, les associations d'entraide type la Croix-Rouge, ATD Quart-Monde, les associations de culture, voilà. Et le Conseil économique, social et environnemental s'est vu réformé par une loi organique en 2021. On est passé de 233 conseillers à 175 conseillers. Les piliers, bien sûr, ne sont pas tous égaux. Hein. Il y a des poids plus importants dans la vie économique et de la vie syndicale et de la représentation des salariés. Mais on travaille bien ensemble et notre objectif est l'objectif fixé par la Constitution de 1958, c'est bien de conseiller le gouvernement sur les politiques à caractère économique, social et environnemental. Donc nous faisons des avis en autosaisine, mais nous sommes aussi saisis par le gouvernement et nous pouvons aussi être saisis par les deux autres assemblées.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de parler du traité sur la haute mer, qui est le thème qui nous occupe ce soir. Donc de son nom complet, le traité international de protection de la haute mer. C'est un traité qui a été adopté par les États membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 2013, et qui entrera en vigueur le 17 janvier 2026. Donc c'est pour ça qu'on en parle en cette fin d'année. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle la haute mer ?
Alors, chaque pays qui a une façade maritime a un domaine public maritime qui couvre les eaux territoriales qui vont jusqu'à 12 000. Ça correspond à peu près à 19 km en mer. Et puis, ont aussi une zone plus large, une zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 000 nautiques marins, c'est-à-dire 370 km au large, qui identifie que cette grande zone puisse être, je dirais, un peu exploitée par les pays qui ont la juridiction, c'est-à-dire pour la France, eh bien, grâce à nos outre-mer français, on a la deuxième zone exclusive maritime du monde. Mais malheureusement, au-delà de cette zone, il existe ce qu'on appelle la haute mer ou le Far West en mer, c'est-à-dire une zone qui couvre 70% de nos océans et sur laquelle il n'y avait jusqu'à présent aucun traité juridique qui permettait de gérer mieux cette immense zone. Or, nous dépendons, humain entièrement de la mer. Nous respirons grâce à la mer une respiration sur deux. Il y a plus de 3 milliards d'habitants sur le globe qui dépendent des ressources marines. Et puis, c'est une zone qui aujourd'hui est tellement importante pour notre survie sur la planète qu'il était temps de mettre en place un traité juridiquement contraignant qui d'ailleurs a été décidé lors de la Convention sur la diversité biologique, lors de la dernière COP sur la biodiversité à Cumming, Montréal, et qui doit justement nous permettre de fixer d'ici 2030 30% d'air protégé dans cette haute mer et dans nos zones exclusives économiques. Il faut savoir que jusqu'à présent, tous les pays qui ont cette façade maritime remplissent l'objectif d'avoir créé 8% d'air protégé. Donc, il faut en créer 30% d'ici 3 ans. Donc, l'objectif est très, très important et ambitieux. Et donc, c'est pour ça que ce traité BBNJ, donc le traité mondial de l'océan, doit le permettre et que c'est très bien que 60 États l'aient ratifié pour qu'il puisse se mettre en effet en œuvre en tout début d'année, le 17 janvier 2026.
Vous évoquiez des objectifs en matière d'air protégé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement quels sont les grands thèmes sur lesquels porte ce traité ? Qu'est-ce que ça doit changer plus concrètement ? Quels sont ses objectifs ?
Les principaux objectifs de ce traité en mer, c'est de créer donc ces outils de gestion spatiale qui sont les aires marines protégées. Bien sûr, une aire marine protégée n'est efficace que si elle a un plan de gestion et bien sûr une surveillance de son périmètre. Elle doit permettre de meilleures évaluations d'impact environnementaux de l'état de la haute mer, de l'état de ses futures aires marines protégées, pour savoir si il existe des ressources marines génétiques, quels sont les corridors écologiques qu'utilisent les ressources halieutiques. Elle doit permettre un accès aux ressources génétiques marines, mais aussi un partage des bénéfices. Et puis, le renforcement des capacités de transfert de technologies marines, pour que l'ensemble des pays du globe, de la planète, voient la haute mer non plus comme un Far West où chacun pourrait aller pêcher ou faire n'importe quoi, mais plutôt comme une zone qui va assurer notre survie sur la planète.
Et vous évoquez un Far West qui était jusque-là non régulé. Est-ce que c'est difficile de réguler un espace qui n'appartient à personne ? Est-ce que, paradoxalement, c'était un espace de grande liberté pour les États ? Vous nous l'avez déjà un petit peu dit, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les négociations ont duré aussi longtemps ? Je rappelle qu'elles ont duré quasiment 20 ans, de 2004 à 2023. Qu'est-ce qui en fait un sujet de crispation, en fait, ce Far West dont vous parlez ?
C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme cette zone-là ne relevait pas de juridiction nationale ni contraignante au niveau international, c'était les États qui avaient des navires battant pavillon de leurs États qui faisaient ce qu'ils voulaient selon ce qu'ils avaient envie d'y trouver. Là, le fait qu'on mette en commun, par ce traité, cette immense zone qui est la haute mer, ça va permettre de partager plus, je dirais, plus justement à la fois ses ressources, mais aussi de protéger ses ressources marines et la biodiversité. Alors, ce qui a pu coincer dans les différentes périodes de construction de l'accord, c'est bien sûr la prééminence de certaines flottes de pêche, qui voulaient absolument pêcher absolument partout, avec des bateaux immenses, ce qu'on appelle la pêche illégale, INN, illégale non déclarée. Et ça pouvait être aussi des États qui ont des marines de défense très importants, qui ne voulaient pas qu'on sache où ils étaient et pour pouvoir un peu plus contrôler les passages dans certains détroits, parce que tout prend du temps, même pour les aires marines protégées françaises, quelquefois on met 10, 15, voire 20 ans à créer des aires marines dans nos propres eaux, parce que il faut essayer de se mettre d'accord avec toutes les parties prenantes, les pêcheurs, les acteurs du tourisme, la défense, les associations environnementales, les services de l'État. Et donc, si vous voulez là mettre ça en place au niveau international, bien forcément, il y avait beaucoup plus d'acteurs. Et donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, aujourd'hui, on a 60 pays qui ont ratifié l'accord, ce qui permet de le mettre en place. Mais on sait très bien, par exemple, que aujourd'hui, vu la présidence des États-Unis, vu ce qui se passe aussi au niveau de la Russie, on ne compte pas trop sur une ratification de l'accord par les Américains et par les Russes. Voilà. Mais les autres pays sont très allants dans la mise en œuvre de l'accord.
Et je vous remercie pour cette réponse. Vous restez avec nous dans la matinale de 19h, Elodie Martini-Cousty. On vous quitte le temps d'une chanson, PHNTM ou FNUMP, d'Abel 31.
Tu les rabois, j'suis dans la fin comme Pépé une dernière, elle était random. Pépé une dernière, elle était random. Ils vont la grève, ça dure un temps. J'ai fait deux fois la grève, le reste de l'année c'était du printemps. Rien n'a une banane, tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être me voir dans le mal. J'suis dehors jusqu'à ce qu'il pleuve, sur la vie face de cave. Des fois j'ai un peu peur, j'suis déjà tombé sur la paille. Mania Donna, ça veut plus. Maintenant t'entends ce que j'ai à dire. Papa parle moi je comprends. Après je dirai c'est à dire. Ma vie c'est pas un fandom. Tu les rabats j'suis dans la fin. T'as une dernière elle était random. T'as une dernière elle était random. Ils font la grève ça dure un matin. J'ai fait deux fois la grève. Le reste l'année c'était du printemps.
Et vous êtes... Et c'était PHNTM d'Abel 31 sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Donc c'était PHNTM d'Abel sur Radio Campus Paris. Je le dis, je termine ma phrase. On m'a coupé. Il est 19h18 et c'est toujours la matinale de 19h. On est de retour avec Elodie Martini-Cousty, la vice-présidente du CESE, sur le traité, qui vient nous parler du traité sur la haute mer, qui sera du coup actif en janvier 2026. Et moi j'avais une question, Elodie Cousty. En quoi le traité, il permet de contraindre les États qui l'ont ratifié d'agir pour la haute mer ?
Ah, ça c'est une très bonne question. Les plus de 60 pays aujourd'hui, puisque je crois qu'il y en a 65 qui ont signé ce traité, vont devoir, avant avril 2026... soumettre et proposer soit un État, soit plusieurs États parties à cette convention sur la haute mer, des propositions de création de traités, de périmètres d'aire marine protégée, adossés à des études scientifiques et techniques. Ceci va pousser les autres États membres à une consultation pour choisir quelles sont les aires marines protégées les plus intéressantes et les plus prioritaires à créer dans l'immédiat. Tout ça va être adopté par un vote majoritaire de l'Assemblée des États parties aux trois quarts. Et il faudra absolument un plan de gestion. Et pour répondre complètement à votre question, c'est bien sûr en fonction des premières aires marines protégées qui seront créées qu'il faudra absolument étudier les budgets et les moyens de surveillance et de contrôle pour surveiller et contrôler ces aires marines protégées. Mais l'ensemble des pays qui ont signé, ratifié le traité ont intérêt à le faire parce qu'il en va à la fois de la survie de leur population, de la survie de l'homme sur la planète. Et s'ils l'ont signé, c'est pas sous la contrainte. Donc, ils sont extrêmement ambitieux en la matière. Donc, c'est plutôt ensuite les moyens qui seront mis à la disposition de ces pays, de ces États parties, pour assurer le contrôle et la surveillance de ces aires marines protégées, qui aura vraiment une importance cruciale.
Et vous mentionniez juste avant la pause que les États-Unis et la Russie étaient peut-être les États les plus réticents à la ratification du traité. Est-ce que vous pourrez clarifier ce point-là? Est-ce qu'ils ont signé le traité? Est-ce qu'ils vont le mettre en œuvre ou pas du tout?
Non, ils ne l'ont pas signé. Mais vous voyez comme Donald Trump, quand il a été élu déjà dès la première, lors de son premier mandat, était sorti de l'accord de Paris. Là, il l'a reconfirmé au début de son second mandat. Et il essaye de faire en sorte, malheureusement, que les institutions comme l'ONU, qui essayent de maintenir la paix et maintenir un multilatéralisme qui permet à chaque pays de s'exprimer sur des décisions géopolitiques et qui entraînent en effet des actions qui peuvent être un peu plus contraignantes pour les États, lui, il n'en veut pas. Il veut faire du deal commercial dans sa façon de faire. Donc, il n'a pas jugé intéressant que les États-Unis, sous son mandat, ratifient le traité. Maintenant, peut-être que son successeur ou sa successrice le signera. Ce ne sera pas trop tard. Et quant à la Russie, eh bien, on connaît les velléités de M. Poutine sur tout ce qui est le nord de l'Atlantique, le passage entre l'océan Atlantique nord et les mers qui sont au-delà du cercle polaire. Et puis M. Poutine, un peu comme M. Trump, ne veut pas de contraintes et de surveillance. Ce sont deux grands pays qui se surveillent en permanence. Et donc forcément, pour le contrôle de la mise en place de ces aires marines protégées, il y aura forcément le développement d'outils de surveillance, de satellites, de big data, qui contrôlera ce qui se passe dans la haute mer. Et ça, bah, ces deux grands pays-là, je pense que la Chine aussi n'en voudront pas. Mais peut-être que ça changera.
Et est-ce que l'absence de ces deux pays compromet gravement l'efficacité du traité, ou est-ce qu'on peut imaginer que on pourra tout de même aller suffisamment vite sur la protection des océans sans eux?
Bah, je pense que pour démarrer, on n'a pas besoin d'eux. Bien sûr, ce serait plus agréable pour tout le monde que les États-Unis, qui ont la première zone exclusive marine dans le monde et qui ont des outils scientifiques à leur disposition, enfin, qui les avaient jusqu'à présent avec la NOAA, qui malheureusement est en train d'être démantelée par Donald Trump. On aurait aimé qu'il fasse partie de cet accord pour aussi bénéficier de leur appui scientifique et de leurs moyens de surveillance et de contrôle. Mais il existe d'autres grands pays qui ont des façades maritimes, comme le Brésil, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Australie, beaucoup de pays africains et d'autres qui acquièrent ces technologies, les technologies de surveillance. Et l'objectif, c'est justement de mettre en partage ces technologies et puis d'encadrer, que ces différents pays encadrent par des mesures politiques et techniques, notamment dans la coopération de patrouilles en mer, dans le contrôle des bateaux au port et dans un cadre juridique entre États partenaires, comment tout ça va se mettre en place et va fonctionner pour le contrôle. Et plus justement, c'est les pays qui ont ratifié l'accord le feront à leur échelle, sans être gênés peut-être par les gros blocs que sont la Russie et les États-Unis, ils prendront une avance et ils rattraperont peut-être leur retard, puisqu'il y aura du transfert de technologie dans les pays en développement par les pays qui l'ont. Et pour ça, l'Europe n'est pas en reste. On espère vraiment que ça fonctionnera. C'est tout ce qu'on souhaite. Et surtout de montrer aux États-Unis que ce serait bien qu'ils finissent par venir Et puis, ben, la Russie, c'est une autre histoire.
Et vous mentionniez tout à l'heure qu'en France, on pouvait mettre 10, 15, voire 20 ans à créer des aires marines protégées. Est-ce qu'il y a tout de même des initiatives nationales ou européennes qu'on pourrait souligner en matière de préservation des océans, qui est un sujet relativement méconnu du grand public ?
Alors en France, on a mis un certain temps à créer des aires marines protégées, mais c'est quand même sous, je dirais, la présidence de Nicolas Sarkozy, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Il est en prison.
Oui, je sais, mais il n'a pas fait que des choses horribles. Il a aussi, grâce à lui, on a eu le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer. Bon, c'était ses équipes hein, qui poussaient pour ça, mais il nous a laissé les faire. Et ça a permis justement de se poser la question pendant le Grenelle de la mer en 2009 de la création des aires marines protégées françaises et puis au-delà de porter la question de la place et de la responsabilité de la France grâce à ses outre-mer pour créer des aires marines protégées très grandes à la fois dans les outre-mer. Et ça a été fait après sous la présidence de Monsieur Hollande, quand il y a eu la création de l'Agence des aires marines protégées. Madame Ségolène Royal, qui à l'époque était ministre de la transition écologique et de la mer, a créé des très grandes aires marines protégées en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord du gouvernement polynésien aussi en Polynésie. On en a créé en Méditerranée, on en a créé en Guadeloupe et dans le bassin antillais, et puis dans le bassin de l'océan Indien, à Mayotte, à La Réunion, et sur les îlots qu'on appelle les îles éparses, qui sont entre les Comores et au nord des Comores. Et dans des couloirs de migration de la faune marine qui sont très importantes. Et puis, bien sûr, on en a créé dans nos terres australes françaises, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que sur les 10% d'aires marines protégées qu'on doit avoir en France, parce que ce sont nos engagements internationaux, on n'en a pas 10% qui sont réellement protégés, mais on en a 4%. Et ces 4% protégés de façon forte, c'est dans les terres australes françaises et dans l'océan Indien principalement. Pour la façade maritime de l'Hexagone, on a des grandes aires dites protégées, comme les parcs naturels marins, les réserves nationales marines. Les parcs naturels marins sont plutôt des outils de gestion que des outils de protection. Mais justement, cette année, dans les documents stratégiques de façade, tout ça est un peu technique, je le reconnais, on doit avancer pour vraiment atteindre les 10% de zones de protection fortes. Donc, créer 6% d'aires marines protégées fortes, en plus des 4% qu'on a dans l'océan Indien et les terres australes. Et ça, malheureusement, ça prend beaucoup de temps.
Merci beaucoup. Madame Élodie Martini-Cousty, je le rappelle, vous êtes la vice-présidente du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes venue nous parler du traité sur la haute mer qui entrera en vigueur en janvier 2026. C'est la fin de cette interview. Je vous remercie encore de votre venue. Et tout de suite, voici le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, c'est Abel qui nous délivre son Flash Info.
Oui, bonjour Hugo, bonsoir à tous. Vous l'avez senti aujourd'hui, la tempête Benjamin a fait fureur. Née d'une dépression atmosphérique dans les îles britanniques, la tempête a touché la France au cours de la journée avec des vents atteignant 150 km/h dans les Landes. Plus de 140 000 foyers ont été privés d'électricité sur le territoire et malheureusement, on dénombre 6 blessés dont un grave et surtout un vacancier allemand a péri lors d'une crue de rivière en Corse. La tempête va continuer à toucher la Corse dans la nuit de vendredi. Politique à présent, l'Assemblée nationale a voté pour la notion de consentement notamment intégré dans la définition pénale du viol. Ce projet de loi a été porté par le gouvernement, la majorité et quelques députés de différents partis. Malgré un faible taux de présence, la loi a été adoptée à 155 voix contre 31. Le Rassemblement National et leurs alliés de l'UDR s'y sont opposés à la quasi-majorité, 28 voix contre les 3 seules abstentions du vote. Côté culture, la sortie du nouvel Astérix, Astérix en Lusitanie, perpétue la vie de la très célèbre série de bande dessinée. Le 41e tome est signé Fab Caro et Didier Conrad. Deuxième collaboration sur la franchise, ils avaient travaillé ensemble sur l'opus précédent nommé L'Iris Blanc. Les artistes ont annoncé vouloir faire ressentir la Saudade, sorte de spleen à la portugaise. En tout cas, le succès transgénérationnel devrait être au rendez-vous puisque les éditeurs ont annoncé le tirage de 5 millions d'exemplaires. Au cinéma, le carton des sorties de mercredi n'est autre que Arco, le film d'animation du français Hugo Bienvenue. Également dessinateur de bande dessinée, réalisateur de nombreux courts-métrages et clips d'animation, il parvient à séduire critiques et spectateurs avec une œuvre onirique, haute en couleurs, pour son premier long-métrage. Aux États-Unis, le président Donald Trump relance la polémique sur la future salle de bal de la Maison-Blanche, projet aux allures versaillaises. Il a dévoilé de nouveaux visuels de l'édifice qui devrait porter le nom de Donald G. Trump Ballroom. Les raisons de ce débat tournent autour du devis en croissance constante et du financement parfois opaque, bien que provenant majoritairement des entreprises de la tech. C'est aux États-Unis que progresse dans leur troisième semaine de shutdown la paralysie administrative du gouvernement fédéral suite à l'échec du vote sur la distribution des fonds gouvernementaux. C'était tout pour les informations du jour. Merci et bonne soirée.
Et merci Abel pour toutes ces actualités. Pour la suite du programme, on continue dans l'actualité avec la chronique de Philippe. Puis il continuera avec nous en interviewant James Baker pour son nouvel EP dans le Zoom. Et enfin, ce sera à Gauthier pour une chronique d'humour. Mais pour le moment, ce sera 30 Under 13, The Better Lovers.
I'm so sure.
Better Lovers, 13 Under 13, sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h.
La matinale de 19h.
Et maintenant, c'est l'heure de la chronique actu de Philippe. Alors, que se passe-t-il dans le monde, Philippe ?
Alors, c'est l'année grise, non, je rigole, c'est l'année blanche. Attention, ça tâche. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En matière religieuse, on parle souvent d'année sainte. En politique, on a inventé l'année blanche. L'année où on se serre la ceinture. Pour des raisons budgétaires, il s'agit de geler les pensions et les prestations sociales. Une façon de dire aux classes moyennes qu'il faut qu'elles arrêtent d'être indifférentes à leur sort. Ou bien en employant une expression plus triviale, on va taper au portefeuille. Pour les riches, on hésite toujours. Le retour de l'ISF, la taxe Zuckman... Impossible, cela nuirait à l'économie. Ils en ont de la chance, les riches. Ils sont moins nombreux et les arguments économiques existent toujours pour les défendre. Les économistes qui veulent se faire bien voir peuvent toujours invoquer la raison économique au lieu de la passion politique. L'idéologie dominante préfère exploiter la masse populaire. Ça rapporte plus et le calcul est plus simple. Les impôts augmentent, les assurances augmentent, le coût de la vie augmente, mais les pensions et les prestations sociales doivent stagner. Le monde est ainsi fait. Les dirigeants ne sont jamais responsables. Comptables, mais pas responsables. Comptables de la dette qui n'a cessé de s'accroître devant les yeux ébahis d'un public... Toujours plus nombreux, les personnes plus âgées ne se souviennent guère des 30 glorieuses. Ce qui est glorieux aujourd'hui, c'est de taper le contribuable, le besogneux, celui qui ne passe pas à la télé. Pour le train de vie des privilégiés, on verra. Surtout, il ne faut pas déranger l'ordre établi. Les riches devant et tous derrière. On a oublié qu'une année blanche, ça peut tâcher. Et quand les tâches sont trop nombreuses, en fin d'année... Elle peut devenir une année grise. Ah, la belle vie, sans amour et avec des tâches. Alors maintenant, après avoir évoqué les couleurs politiques, parlons un peu de l'impasse budgétaire. Et si Emmanuel Macron était dans le calcul politique ? Le profil de banquier qui lui colle à la peau, amoureux des riches et trompeur. Macron, la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est la politique. Depuis son élection, il n'a eu de cesse d'exercer ses talents de marionnettiste. D'abord contre la droite, en essayant de la réduire au maximum à la manière d'un réducteur de tête. Cette manœuvre exigeait que Macron abandonne ses derniers vêtements de rocardien blasé. Il lui fallait opérer un virage à droite, spectaculaire, au détriment de son aile gauche. Le « en même temps » prenait du plomb dans l'aile dès le départ. Après avoir bien pressuré la droite, il réalisa qu'il n'était pas de gauche pour autant, mais seulement le dernier libéral. Il se trouva fort dépourvu en 2022, lors de sa réélection, pour assurer le service après-vente du « en même temps ». D'ailleurs, plus personne ne croyait au « en même temps ». Macron se mua alors de plus en plus dans un autisme élyséen. Lui, Macron et les autres. Il eut l'idée de dissoudre l'Assemblée en espérant que le RN l'emporte afin de redorer un peu le blason du macronisme finissant. Mais l'opération échoua à cause du Front républicain. L'ancêtre du « en même temps ». Macron ne voulut toutefois pas casser son jouet, la politique française. Il s'amusa à nommer deux premiers ministres pour gagner du temps, avant de nommer son fidèle grognard, le cornu. Dernière manœuvre, attirer le PS dans ses filets. Il n'avait pas réussi, lors de la dissolution surprise de 2024, à diviser la gauche. Cette fois-ci, il parviendrait peut-être à séparer les frères ennemis, le PS et ses alliés. L'opération fonctionne bien pour l'instant. Si le budget n'est pas voté, il sera toujours temps d'activer des mesures constitutionnelles. Une loi spéciale ou des ordonnances bien senties, en préservant l'essentiel, la politique de l'offre qui porte mal son nom. Dès lors, la gauche pourrait apparaître divisée lors des élections municipales et Macron pourra terminer son deuxième quinquennat plus sereinement, son activité de fossoyeur des partis étant achevée. Après moi, le déluge. Il sera bien toujours temps de réécrire le prince à l'usage des nuls.
Merci Philippe pour ta chronique. Tu restes avec nous pour le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et le Zoom de ce soir, c'est James Baker pour son nouvel EP, Romy Rose. Et du coup, je te laisse, Philippe.
Et oui, à seulement 23 ans, James Baker est une des figures montantes de la scène musicale française. Cet autodidacte a su se forger une identité artistique unique en puisant dans un large éventail d'influences musicales allant de l'indie pop à l'électro, en passant par le rock et le rap. Auteur, compositeur, interprète... Il maîtrise l'intégralité de son univers sonore, apportant à chaque morceau une touche personnelle qui le distingue dans le paysage musical. Bonjour James Baker. Alors James Baker, ça me fait penser tout de suite à un homme politique américain.
Ouais.
Alors c'est vrai, pourquoi vous avez choisi ce nom?
Bah, parce que je le connaissais pas en fait, tout simplement. Mais j'ai choisi ce nom parce que mon père, quand j'étais petit, il m'appelait James Baker. Parce que mon nom de famille c'est Bacar, donc il y a une lettre qui change, et je sais pas, il voulait faire Bacar. Un peu le ricain. Et du coup je me suis dit, quand je me suis lancé dans la musique, je vais garder ce nom. Et finalement c'est un homme politique qui était le premier ministre sous Reagan, voilà. Donc pas ouf en plus.
Secrétaire d'État, je crois, aux affaires étrangères.
Exactement. Ouais.
Et aucun rapport avec Joséphine Baker, pareil.
Bah non, bah je préfère cette comparaison du coup. Mais...
C'est vrai, Baker, ça dit quelque chose. Comment on peut définir alors je sais pas si on se tutoie, mais on peut peut-être tutoyer ta musique parce qu'on a parlé de différents styles musicaux.
Moi, en général, je dis que je fais de l'indie pop tiré vers l'indie rock avec des influences électroniques, hip hop. Funk, un peu de tout, mais la base des bases, c'est un peu indie rock, indie pop. Voilà.
Et il y a un style de musique que vous préférez parmi d'autres?
Non, en vrai, justement, j'aime un peu tous les styles de musique. C'est pour ça que mon univers est un peu éclectique, quoi. Mais peut-être une petite préférence pour le rock et l'électro.
D'accord. Ouais. Alors justement, comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours depuis le début? Enfin, peut-être pas depuis le début, mais quelques années.
Bah depuis quelques années, je fais de la musique. Du coup, j'ai commencé en faisant, en sortant un son par semaine avec un clip par semaine pendant 4 mois et demi, et ce qui m'a permis de toucher un maximum de gens sur une période réduite, et depuis j'ai eu des opportunités qui ont un peu concrétisé le projet dans un axe plus professionnel, et du coup depuis je suis dedans, quoi. Je fais que composer, écrire, et maintenant je fais des concerts.
Alors vous n'êtes pas tout seul, quelle est votre équipe?
Ouais, je suis pas tout seul. Moi je compose, j'écris globalement toute la base. Ensuite je travaille avec un arrangeur qui s'appelle Charles Dolé pour un peu magnifier la musique, un ingé son qui vient faire le mix, un autre qui vient faire le master, et sur scène je travaille aussi avec différentes personnes pour mettre en place le live. J'ai des musiciens sur scène, etc. quoi.
Vous écrivez la musique et les textes, je crois. Mm-hmm. Comment ça se passe? Vous écrivez d'abord la musique?
Moi en général je compose avant d'écrire, et une fois que j'ai plein de compositions, je fais ce qu'on appelle des top lines. En gros, je chante, je fais des mélodies à la voix par-dessus les compos, et selon les mélodies que je fais, selon si elles sont selon moi fortes ou moins, je sélectionne les morceaux et j'écris ensuite par-dessus.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter vos musiciens, les musiciens qui vous accompagnent? On en a déjà parlé tout à l'heure, mais...
Carrément. Oui, bah, je suis accompagné par mon meilleur pote Arnaud Graff à la guitare et Bastien Bonnefond à la batterie.
D'accord. Et c'est des musiciens que vous connaissez depuis longtemps?
Alors oui, Arnaud, c'est mon meilleur pote depuis le lycée. Et Bastien, ça fait maintenant... Ça va faire 3 ans qu'on se connaît, mais... Mais voilà.
Et on peut parler de vos influences. Donc on a dit que vous aimiez plus telle musique.
Ouais.
Quelles sont vos influences? J'ai vu que vous aimiez bien Feld Up. Alors je sais pas. J'ai vu ça quelque part.
Ouais, j'aime bien ces vidéos YouTube. Lui c'est un YouTuber. Enfin il fait de la musique aussi d'ailleurs, mais.
Et du coup, t'es déjà allé dans les backrooms?
Bah justement, ouais. Je me suis inspiré de lui pour un projet qui s'appelle Les monstres ne se cachent plus sous mon lit, où toute la direction artistique, un peu visuel, et même au niveau de l'histoire que je raconte, est inspiré de Tim Burton, de Basquiat, et notamment des backrooms. Donc Feld Up a participé à...
Les backrooms, peut-être expliquer à ceux qui savent pas ce que c'est. Je crois que vous aimez bien les monstres aussi, je crois.
Ouais, j'aime bien les monstres. Bah, les backrooms, en fait, c'est hyper dur à expliquer de manière simple, mais c'est un peu un truc qui est sorti sur Internet par un réalisateur qui s'appelle Pixel, je sais plus c'est quoi son prénom, mais quelque chose Pixel, et en gros il a réalisé des courts-métrages un peu horrifiques, mais dans une esthétique très très internet, quoi. Et c'est sorti sur YouTube et ça a fait le buzz. Et voilà, c'est une série d'horreur un peu... comment on appelle ça quand c'est filmé pour de vrai? Tu vas peut-être m'aider.
Non,
on n'a pas la réponse alors.
Mais pour les auditeurs que ça intéresse, vous pouvez donc aller voir Feld Up. Il a une vidéo qui explique bien les backgrounds.
Ouais, voilà, exactement.
Mais je pense qu'on commence à comprendre là. Est-ce qu'il y a une continuité dans tout ce que tu fais, dans ta musique? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu abordes plus facilement?
Ouais, j'ai l'impression que la musique pour moi c'est un peu une quête de soi. Donc j'aborde beaucoup ces questions-là, un peu de recherche, de qui on est, de est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne, est-ce que, enfin, il y a tout un, j'aime bien un peu tout ce qui touche un peu à la santé mentale, aux névroses, à l'amour aussi, etc., etc.
Donc c'est un peu une musique morale, je dirais, le bien, ouais. Le mal. Voilà.
Ouais, non, je sais pas si c'est moral, mais en tout cas, j'ai un peu une passion. J'ai été pris de passion il y a quelques années pour la psychologie. Parce que notamment ma sœur est psychothérapeute, psychosexologue pardon, mais de façon plus thérapeutique. Et du coup en fait elle m'a transmis plein de bases un peu à la psycho et depuis j'aime bien un peu lier ça à ma musique un peu ce genre de, c'est pas du développement personnel mais c'est un peu justement à la recherche de soi profonde quoi.
Ah ouais. Voilà. Donc je vois que tu as plusieurs dates passées, tu as été à Villefranche-sur-Saône, tu vas passer à La Cigale le 14 uh-huh. novembre et tu vas aller à Brest, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Donc justement, j'avais une question sur tes souvenirs forts en concert.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué plus qu'un autre ?
Oui, oui, il y en a un qui, il y en a même plusieurs qui m'ont marqué plus que les autres, il y a notamment la Maroquinerie en mai 24 pardon, qui a été ma dernière date parisienne et c'était un sacré bordel. Et j'ai aussi un concert que j'ai fait, c'était un interplateau sur la scène des Francofolies de La Rochelle où j'ai joué trois morceaux devant 13 000 personnes.
Et oui, là, c'est quand même un gros concert.
Ouais, ouais, gros concert, grosse pression.
Ah, donc tu partageais l'affiche avec pas mal d'artistes très très connus. Hein.
Ouais, ouais, carrément.
Donc ton projet là actuellement, qui sort, c'est Romy Rose. Apparemment, j'ai vu que c'était inspiré d'un film, parce que je crois que tu aimes beaucoup le cinéma.
Ouais.
Tu es très cinéphile. Et alors le film, j'ai noté, je sais pas si c'est ça, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Exactement.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ton dernier EP? Parce
ouais,
que ça
carrément.
Se dit.
Oui,
c'est comme ça qu'on dit.
C'est comme ça qu'on dit. Oui, effectivement, mon dernier projet, Romy Rose, est inspiré de ce film-là. Je suis effectivement passionné par le cinéma depuis tout petit. Je voulais en faire mon métier de base. Mais voilà, j'ai fini dans la musique et du coup, maintenant, j'essaye de lier un peu les deux arts en racontant des histoires et en parlant de ma vie et de choses qui peuvent résonner dans tous les gens pour tous les gens qui m'écoutent mais du coup inspiré d'un film je le fais pas tout le temps mais là pour ce projet là j'avais très envie de m'inspirer d'Eternal Sunshine. Ça faisait longtemps que j'avais eu cette idée en tête et du coup c'est un film qui parle comment l'expliquer de manière simple aussi, mais c'est une histoire d'amour un peu douloureuse où les deux protagonistes vont venir à effacer leur mémoire pour s'oublier. Et je sais pas si je spoil du coup, mais du coup bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoilé. Mais ils finissent par se re-rencontrer et de revivre une histoire d'amour. Je trouve ce film hyper intéressant dans son message, dans le fait que oublier ses problèmes, c'est les remettre à plus tard, qu'on répète des schémas si on ne prend pas le temps d'en prendre conscience, etc., etc.
Donc justement, pour ton inspiration, il y a le cinéma, il y a d'autres formes d'inspiration, sources d'inspiration.
Et j'ai besoin d'une réponse courte.
Voilà.
Ouais. Non, globalement, en fait, moi, je suis très inspiré par le cinéma et après par la musique, effectivement. Mais sinon, par ce qui m'entoure, quoi, par ce que je vis, mes potes, mes proches, ouais. etc.
L'environnement, ouais. Effectivement. D'accord.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup,
merci
James Baker, d'être venu dans la matinale de 19h. Merci à Philippe pour l'interview. Tu es venu, James, pour ton nouvel EP, Romy Rose. Et tout de suite, eh bien, c'est la fin de ce Zoom, mais tout de suite, on écoute l'une de tes musiques, Romy, de ton nouvel EP sur Radio Campus Paris.
Je suis qu'un gars qui se voile la face comme un. J'enchaîne les clopes plus vite que mon ombre, mais du respect sur ma glotte et sur mon nom. Je fais le mec sûr alors que mes paumes mettent dessus. Dans ma tête c'est merde, oula, ok ouais je suis un chouïa toqué. Doué pour raconter des histoires et allumer victoire, alors je suis qu'un. Ils parlent de moi mais ils disent quoi. Je ne suis qu'un gars qui se voile la face comme un.
Romy de James Baker, de son nouvel EP Romy Rose sur Radio Campus Paris. Alors la matinale se termine bientôt, mais pour l'heure vous l'écoutez toujours.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
La dernière chronique sera assurée par Gauthier, qui revient avec moins de cheveux, mais toujours autant d'humour.
Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 70e chronique sur ces ondes. Et attendez deux secondes. Attends, j'enlève des trucs. Excusez-moi. Alors, il y a ça. Il y avait quoi encore? Il y avait ça, je crois.
Oh merde.
Hop, attendez une seconde. J'enlève ça. Ouais, j'ai beaucoup de trucs. Oui. Bon, j'avoue. Voilà, vous voyez, le Louvre, c'était moi.
Pour ceux qui n'ont pas vu, il vient de vider ses poches.
Voilà, je restitue tout ce que j'ai pris. Ça a été assez difficile de les emmener avec moi avec la tempête. Ça a failli se barrer 2-3 fois pendant le trajet. Alors bon, je vous dois de quelques explications pendant que la police est en train de se diriger vers nos locaux pour me passer les menottes. Je me baladais tranquillement dans le Louvre. J'avais payé ma place parce que j'ai 26 ans, donc je suis une vieille personne. J'ai vu une vitrine ouverte, je me suis dit que c'était du merchandising gratuit et J'ai pris. Hein. je me suis dit que c'est voilà, je me suis pas plus posé de questions que ça. Et puis j'ai appris dans la journée que c'était un truc important que j'avais pris. Genre ça s'appelle les couilles de la couronne, un truc comme ça. et en fait pour moi bah ça a pas vraiment de valeur quoi. En sortant j'ai même trébuché, j'ai failli me casser la gueule. Il y a 2-3 bouts qui sont tombés. Bon, j'ai vu qu'ils avaient été retrouvés, ça fait plaisir. J'aurais bien aimé les récupérer, mais bon, ça aurait fait quelques heureux. Mais après, qu'est-ce que ça s'est emballé? Pff, oh là là, c'est trop. Ça parlait de cambriolage, ça parlait de vol en bande organisée, ça parlait de personne peut me canaliser. Mais wow, est-ce qu'un homme simple ne pourrait pas tout simplement prendre les choses qu'il arrange dans un musée? Mais si aujourd'hui je rends les choses, c'est grâce à un seul homme qui m'a vraiment peiné. Cet homme, c'est un ex-chroniqueur télé, organisateur de dîners clandestins pendant le confinement. Et surtout, un type qui n'est en aucun cas antisémite, même s'il a fait des photos tout sourire avec Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, ce qui est franchement l'équivalent d'Europa Park pour les antisémites. Donc, Pierre-Jean Chalençon, quand il a appris la nouvelle, l'émotion l'a submergé et...
Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. On va venir vous chercher.
Eh ben vas-y Pierre-Jean, ils sont là, les bijoux de la couronne, pardon. Le bijou de la couronne. Enfin, le vent commence à se lever pas mal, donc viens si t'arrives à venir surtout. Et donc vas-y, bah viens, je te les rends. Viens, tu peux en faire ce que tu veux, les remettre au Louvre, les cuisiner au barbecue si tu veux. Oh, bah salut Pierre-Jean, bah tiens voilà, ils sont là, donc je te les donne si tu veux. Tu en fais encore une fois ce que tu veux, tu... La tempête les a emportés. Bah vas-y Pierre-Jean, saute par la fenêtre, va les récupérer parce que pour moi c'est plus mon problème, je viens de passer la malédiction, tu te débrouilles. Salut.
Et merci beaucoup Gauthier. Qui que ce soit qui aura récupéré ses bijoux, n'oubliez pas de les déclarer pour ne pas finir comme Rachida Dati. Mais malheureusement, il est presque 20h et c'est donc la fin de la matinale de 19h. Mais ne vous inquiétez pas, elle revient lundi à la même heure, mais pas avec les mêmes gens. Et je remercie donc nos invités Elodie Martini-Cousty et James Baker, Constance pour l'interview, Philippe pour l'interview du Zoom et pour sa chronique, Abel pour le Flash Info et Gauthier pour sa chronique humour. À la réalisation, je remercie PA, même s'il m'a coupé dans une phrase, ainsi que Aude et Jeanne pour la coordination de l'émission. Je souhaite de bonnes vacances à la plupart des étudiants et une bonne fin de semaine à tout le monde sur Radio Campus Paris.